Bonjour, je suis Marie Le Gac et vous écoutez le podcast Meilleur Allié, épisode numéro 5. Meilleur Allié, c'est le podcast qui vous aide à cultiver la relation la plus importante de votre vie, votre relation avec vous-même. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car j'ai reçu plusieurs messages enthousiastes d'auditeurs et auditrices parmi vous à la suite des derniers épisodes et ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors merci aux personnes qui m'ont contacté, m'ont suggéré de prochains thèmes ou m'ont fait part de ce que l'écoute d'un épisode avait généré chez eux ou chez elles comme prise de conscience. J'adore savoir que le podcast vous est utile et vous aide dans votre propre cheminement. Alors n'hésitez vraiment pas à venir me partager vos avis sur les plateformes d'écoute de podcast et les questions que vous aimeriez que j'aborde en me contactant sur Instagram via le compte meilleur.allié ou via mon site internet www.meilleurallié.com en attaché au féminin et sans accent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil phare du développement personnel qui m'a énormément aidée et qui est d'une simplicité telle, quand on s'est familiarisé avec, que c'est devenu pour moi un essentiel. J'ai nommé le modèle CPEAR ou The Model de Brooke Castillo. C'est un outil tellement basique et fondamental du développement personnel qu'au début de ce podcast, j'avais même choisi de ne pas l'évoquer tant il a déjà été largement présenté et très bien expliqué sur d'autres podcasts ou articles de blog en ligne. Franchement, je ne voyais pas quelle pierre je pouvais bien apporter à l'édifice et je me voyais comme ce chef pâtissier qui voudrait se lancer dans un blog de pâtisserie pour partager ses meilleures techniques et recettes les plus originales et qui se dit qu'il ne va quand même pas présenter la recette de la simple et basique tarte aux pommes. Non, lui, il veut directement présenter la recette de tarte à la betterave au citron yuzu à l'encre de sèche pour sortir du lot. Et puis l'autre jour, en faisant une tarte aux pommes, je me suis dit que les basiques, ça a quand même vraiment du bon. Ce n'est pas pour rien que c'est culte et qu'on y prend plaisir à y revenir. C'est facile, c'est pratique et ça fait le job. Donc le modèle que je vais vous présenter, c'est un peu la tarte aux pommes du développement personnel, simple, pratique et surtout efficace. Je vais essayer de pimenter un peu l'affaire quand même en abordant l'exercice à la manière de Top Chef quand on propose au candidat de revisiter un grand classique en y mettant sa personnalité et sa propre touche. Donc je vais vous servir le modèle CPEAR à la sauce meilleur allié. C'est-à-dire qu'on va voir comment l'utiliser pour faire grandir votre relation avec vous-même et faire changer les choses dans votre relation aux autres et à votre environnement. On va donc commencer par voir déjà en quoi ça consiste, parce que ça a beau être un basique pour moi, peut-être que c'est une nouveauté pour vous et que ça vous sera utile de le voir présenté ou représenté un peu différemment. Alors déjà le nom. Le modèle CPEAR. Ce sont des initiales, on verra après de quoi. L'autre nom, c'est le modèle de Brooke. C'est un modèle créé par la coach américaine Brooke Castillo et c'est un outil d'auto-coaching. Ça veut dire que vous pouvez y recourir par vous-même dès que vous en ressentez le besoin. Et la puissance de cet outil, c'est qu'il s'adapte à vraiment toutes les situations qui peuvent nous paraître problématiques. Et oui, j'ai bien dit toutes les situations. Quand vous vous sentez mal au travail, quand une relation n'est pas épanouissante, quand vos vacances ne se passent pas comme prévu, quand vous vous sentez paralysé face à un nouveau projet, quand vous recevez une mauvaise nouvelle, quand vous vous sentez perdu, empêtré dans une situation qui ne vous convient pas, bref, quand ça ne va pas. Dans les notes du podcast, je vais vous mettre le lien vers le site web de Brooke Castillo si ça vous intéresse d'aller voir à la source de quoi il s'agit. Je précise juste que c'est en anglais. Alors, c'est un modèle qui s'appuie sur des travaux de recherche en psychologie, en neurosciences et qui est parfois utilisé par certains thérapeutes. Et l'idée principale sur laquelle repose ce modèle, c'est la suivante. Lorsqu'il se passe quelque chose dans notre vie, il nous vient des pensées sur cette situation. Et ces pensées sont à l'origine de nos émotions. Et ces émotions vont nous amener à réaliser des actions. La somme de ces actions va produire un résultat dans notre vie, un résultat qui nous convient ou pas. En prenant le temps de regarder de près cet enchaînement, le modèle permet de prendre du recul et de comprendre ce qui nous arrive pour déterminer sur quoi on peut agir. Ça fait des années que j'ai connaissance de ce modèle, je l'avais bien compris en théorie, mais j'en ai vraiment compris la puissance qu'à partir du moment où je l'ai appliqué à ma propre vie, à partir du moment où j'ai utilisé des situations du quotidien où je me sentais mal pour m'exercer à faire ce modèle. Entrons dans le vif, qu'est-ce que c'est que ce modèle, comment on s'en sert? Déjà, voilà les ingrédients dont vous avez besoin. Un problème, un stylo et une feuille. Alors on peut faire le modèle dans sa tête, mais je trouve que l'on voit mieux comment il se déroule à l'écrit. Donc voyez-le comme un exercice d'observation de vous-même et de compréhension de votre fonctionnement intérieur. Et ça, si vous connaissez déjà un peu le principe du podcast Meilleur Allié, vous savez que ça, c'est un bon moyen d'agir sur le levier de la connaissance de soi et de la connexion à soi. La première étape de la démarche, ça va être de tracer 5 lignes, les unes en dessous des autres. Devant chaque ligne, vous allez inscrire les lettres C, P, E, A, R. Donc les initiales des mots circonstances, pensée, émotion, action, résultat. Sur la première ligne, la ligne du C, la ligne de la circonstance, vous allez noter la circonstance qui vous pose problème. Mais vous allez la noter de manière factuelle, observable et objective. Parce que les circonstances, ce sont des faits. Ils ne comportent aucun jugement, aucune notion de bien ou de mal. C'est ce qui est. C'est quelque chose même que vous pourriez prouver devant un tribunal. Voici quelques exemples de circonstances pour que vous ayez bien les choses clairement en tête. Sur le plan professionnel, ça peut être par exemple « J'ai 10 ans d'ancienneté dans mon entreprise et ma fiche de poste contient telle responsabilité. » Ça peut être « J'ai un nouveau travail et je n'ai pas d'expérience professionnelle dans tel secteur d'activité. » Ou « J'ai créé mon entreprise il y a X mois et j'ai X euros de chiffre d'affaires. » Ou « J'ai envoyé mon CV à telle entreprise la semaine dernière et je n'ai pas encore reçu de réponse. » Ou « J'ai un nouveau chef depuis 2 semaines. » Sur le plan perso, une circonstance, ça peut ressembler à ça. L'année prochaine, j'aurai 30 ans. Je viens de déménager à 200 km de ma famille. Ma fille a redoublé sa 3e et ses amis sont tous partis au lycée. Je suis seule à la maison ce soir et je n'ai rien de prévu. Ou je pèse 90 kg. Ou mon rendez-vous chez le dentiste a été annulé. Ça peut aussi être des circonstances plus générales, par exemple, il reste X mois avant la fin de l'année. Ou le changement climatique crée des phénomènes répétés de sécheresse et de canicule dans le monde. Le plus difficile dans cette étape du modèle, c'est d'identifier la circonstance de manière neutre, objective et factuelle. Quelle que soit la gravité ou l'intensité pour vous de cette situation, gardez en tête que la circonstance est toujours neutre et factuelle. Ce sont les pensées au sujet de la situation qui vont donner sa gravité ou son intensité à la situation. De la même manière, les actions ou les paroles des autres sont également des circonstances. Votre cousine qui vous dit qu'elle ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas venu à son anniversaire et dit que vous l'avez laissé tomber, c'est une circonstance. Que vous trouviez ça exagéré, dommage ou stupide, ça c'est un avis, c'est une opinion. Donc faire cette distinction, c'est déjà un exercice en soi. Pour vérifier que la circonstance est vraiment formulée de cette manière, neutre et factuelle, vous pouvez vous demander si elle pourrait être décrite de la même manière par n'importe quelle autre personne que vous. Vous pouvez aussi vous demander ce que l'on verrait à l'écran si la circonstance était filmée par une caméra ou ce que l'on entendrait si la circonstance était enregistrée par un dictaphone. La circonstance pourrait par exemple être « J'ai organisé un rendez-vous avec ma chef à 8h hier matin. Elle m'a appelé à 8h01 et m'a dit « Désolée, je ne me suis pas réveillée, je dois annuler ce rendez-vous. » Ça, c'est une circonstance, car s'il y avait une caméra de surveillance et un dictaphone dans la salle de réunion, on verrait effectivement la caméra indiquer 8h01 quand votre téléphone sonne et on entendrait votre chef prononcer exactement ces paroles. En revanche, ce que vous ne pouvez pas noter comme une circonstance, c'est « Ma chef ne me respecte pas, cette journée démarre très mal et je ne peux vraiment pas lui faire confiance. » Ce qui nous amène à la deuxième ligne, la ligne des pensées. Et plus précisément, c'est la ligne des pensées que vous avez au sujet de la circonstance. C'est là que vous pouvez mettre votre opinion, votre avis. C'est ce que vous allez vous dire au sujet de la circonstance. C'est tout ce que vous allez vous raconter, déduire, conclure et penser de cette situation. C'est tout ce qui vous fait dire que cette circonstance, c'est une bonne chose, un problème, une difficulté, une opportunité, une bonne nouvelle, etc. Donc pour chaque pensée que vous avez au sujet de la circonstance, vous allez noter une phrase. Et l'idée, avec cette deuxième ligne du modèle, c'est vraiment de lister les pensées qui vous passent par la tête sans les censurer ni les filtrer. Observez juste les pensées qui vous traversent, comme si votre cerveau était une émission de radio et que vous écoutiez ce qu'il diffuse. Vous allez essayer d'attraper toutes les pensées qui volent dans votre tête, un peu comme des papillons. Et vous écrivez une phrase par pensée. Ensuite, on passe à la troisième ligne du modèle, qui est la ligne des émotions. Le but de cette ligne, c'est d'identifier quelles sont les émotions qui vous traversent quand vous pensez les pensées que vous avez listées sur la ligne précédente. Par exemple, si vous avez listé « Je ne peux vraiment pas faire confiance à ma chef », peut-être que l'émotion que vous ressentirez, c'est de la tristesse. Ou peut-être de la colère, je ne sais pas. Vous pouvez vous référer à l'épisode précédent, l'épisode 4, qui s'appelle « Accueillir ses émotions », pour voir un peu plus en détail comment repérer vos émotions et comment les identifier. Les émotions que vous allez ressentir à cette pensée que vous avez listée vous sont propres. C'est-à-dire qu'une personne différente de vous ressentirez peut-être quelque chose de complètement différent. Ce que vous allez noter ici, c'est l'émotion principale que vous ressentez. Vous allez utiliser un mot. Joyeux, triste, désespéré, en colère, frustré, etc. La quatrième ligne, c'est la ligne des actions. C'est ce que vous allez être amené à faire quand vous ressentez les émotions que vous êtes en train de ressentir. Donc c'est sur cette ligne que vous allez noter les choses que vous faites ou ne faites pas quand vous vous sentez triste, découragé, en colère, etc., etc. Ce sont les choses spécifiques, les actions spécifiques que vous faites précisément dans la situation où la circonstance s'est produite, la pensée a été pensée, l'émotion a été ressentie. Donc dans le cas de figure où le rendez-vous a été annulé avec votre chef, peut-être allez-vous ressentir une émotion de découragement. Vous allez peut-être décider de ne pas programmer de nouvelles réunions. Vous allez peut-être attendre que votre chef revienne vers vous d'elle-même et vous allez peut-être remettre en question la confiance que vous pouvez lui accorder et donc vous allez avoir tendance à éviter de lui parler, vous allez prendre vos distances. Et puis vous allez peut-être ruminer auprès de vos collègues autour de la machine à café. Ça voilà, c'est tout ce que vous faites ou ne faites pas. La cinquième ligne, c'est la ligne du résultat. C'est ce qui se passe pour vous en conséquence des actions que vous avez faites ou pas faites. Donc dans le cas qu'on vient de décrire, peut-être que le résultat, c'est que votre relation avec votre chef se dégrade et que les idées que vous souhaitiez défendre lors du rendez-vous annulé n'ont toujours pas pu être exprimées et donc le projet que vous souhaitiez monter n'avance pas. Là, on va vraiment identifier quelles sont les conséquences, les résultats pour vous de tout cet enchaînement entre la circonstance, la pensée, l'émotion, l'action et enfin le résultat. Et avec ces cinq lignes, vous avez la possibilité de retracer exactement ce qui se passe pour vous quand les résultats que vous vivez ne sont pas ceux que vous souhaitez. Alors pourquoi utiliser ce modèle ? Déjà parce que ça va vous permettre de comprendre les étapes qui font que vous en êtes là où vous en êtes. De comprendre l'enchaînement entre une situation et ce que l'on en fait. Ça permet aussi de prendre du recul en observant comment on vit les choses et de déterminer comment on souhaite les vivre ensuite. Parce qu'une fois qu'on a conscience de son modèle actuel, on a la possibilité de travailler et surtout de choisir de cultiver un autre modèle plus utile pour soi. Comment et quand utiliser le modèle très concrètement? Je vais vous proposer deux manières, parce que vous allez voir qu'on peut l'utiliser un peu en fonction des situations. Je vais vous proposer deux options. La première, c'est si vous traversez une émotion particulière sans comprendre la raison de sa présence. Moi, c'est souvent par cette entrée-là que j'utilise le modèle CPEAR. Parfois, je ressens une émotion sans avoir pris conscience des pensées qui l'ont créée. Je sais que cette émotion est présente, je sais qu'elle est là, mais j'ai du mal à démêler et je me sens un peu confuse. Alors, je cherche d'abord à nommer mon émotion ou mon ressenti principal. Et ensuite, je vais chercher ce qui fait que je pense ce que je pense et qui me mène à ce ressenti. C'est quoi la source, en fait, de cette émotion? Par exemple, la semaine avant une échéance importante pour moi ou un départ en vacances, il m'arrive de ressentir de l'anxiété. Mais je ne sais pas exactement de quoi est faite cette anxiété. Et la dernière fois que j'ai fait ce modèle, ça m'a permis de faire pause pendant quelques minutes et de noter en circonstances « j'ai tel événement dans 3 jours ». Ma pensée principale, c'était « je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire en 3 jours ». Et ça me faisait monter des bouffées d'anxiété. Et mes actions, c'était sur le mode automatique d'essayer de tout faire au plus vite dans la précipitation, quitte à grignoter le temps de repos que j'avais prévu pour moi, et surtout sans prendre de plaisir, parce qu'en fait ce que je faisais, c'est que je ne prenais même pas le temps de trier les priorités. Ce que je ne faisais pas, c'est que je ne demandais pas d'aide à d'autres personnes, et donc je passais une très mauvaise semaine, et je faisais des erreurs d'inattention. Le résultat, c'est j'arrive à mon événement complètement lessivée, stressée, et puis je dois rattraper des petites boulettes que j'aurais pu anticiper si j'avais pris le temps de me poser dessus au préalable. Et en fait, quand j'ai fait ce modèle, j'ai pris conscience que ma pensée « je n'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire » était vraiment l'origine de mon anxiété. J'ai donc essayé de trouver une pensée qui m'était plus utile dans cette situation, qui pourrait me créer plutôt de la sérénité que de l'anxiété, et donc je me suis dit « je vais prendre le temps de me concentrer uniquement sur les priorités et reporter le reste. » Et en fait, rien que de me dire ça, je prends le temps de me concentrer sur les priorités et de reporter le reste, ça m'a procuré un vrai soulagement. Et de faire ça, ça m'a permis de passer 3 jours beaucoup plus efficaces, beaucoup plus agréables et d'arriver à mon événement en ayant beaucoup plus d'énergie. La deuxième manière dont on peut utiliser le modèle, c'est dans les cas de figure où vous voyez bien le résultat que vous avez dans votre vie, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place certaines actions et à identifier ce qui vous bloque ou ce qui vous freine. Donc là aussi, vous allez écrire les lettres CPEAR les unes en dessous des autres et vous allez commencer par compléter la ligne numéro 4, la ligne des actions. Vous allez écrire par exemple « je regarde la télé » au lieu de « commencer à écrire le livre que je rêve d'écrire ». Puis, vous allez compléter le reste du modèle. Dans cet exemple, on aura peut-être sur la ligne des circonstances « on est mercredi, j'ai une soirée de libre de 20h à 22h ». Sur la ligne des pensées, peut-être que ma pensée ce sera « mais ça ne sert à rien de travailler juste 2 heures sur l'écriture d'un livre ». Ça ne donnera rien. Et sur la ligne des émotions, peut-être de la résignation. Ce qui expliquera que sur la ligne des résultats, on aura « mon projet de livre n'existe que dans ma tête et je n'ai écrit aucun mot. Cette soirée ne va pas faire avancer mon projet d'écriture. » Et c'est en mettant le doigt sur cette pensée qui vous bloque, qui vous empêche en fait de passer à l'action, parce qu'en fait elle va minimiser l'impact que pourrait avoir ce passage à l'action, que vous allez pouvoir décider ou pas de changer cette pensée, peut-être en la remplaçant par « je vais passer 2 heures sur ce livre et ce sera déjà un début ». Voilà, et ça peut déjà vous sortir peut-être de la résignation et remplacer par un peu d'enthousiasme. Si vous avez du mal à identifier la pensée associée à votre action ou absence d'action, ce qui va vous aider, c'est de faire un flot de pensées. C'est-à-dire que vous allez vider toutes les pensées que vous avez en tête, en vrac, sur le papier pendant 5 minutes. Vous allez écrire comme ça, pourquoi cette situation est un problème, qu'est-ce qui fait d'après vous que vous n'arrivez pas à écrire ce livre, etc., etc. Et vous allez voir apparaître sur le papier les pensées à l'origine de vos actions. Alors quand on décortique son modèle actuel, on prend conscience de la manière dont on crée les résultats dans sa vie. Parce que nos pensées, c'est nous-mêmes qui les alimentons. Et moi, ce qui était complètement nouveau pour moi quand j'ai découvert le modèle, c'est l'idée selon laquelle on peut délibérément choisir d'en alimenter d'autres. Pour moi, les pensées qu'on avait, on n'avait pas d'action dessus en fait. Notre cerveau produit des pensées et puis elles sont là et puis on les subit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher de nouvelles pensées à développer. À vous de jouer, je vous propose maintenant une mise en pratique en notant sur une feuille les lignes C-P-E-A-R, identifiez une action que vous faites ou ne faites pas et notez-la sur la ligne A. Puis, complétez les autres lignes et identifiez l'émotion qui vous pousse à faire ou ne pas faire A et identifiez les pensées qui font que vous ressentez cette émotion. Et enfin, vous pouvez mettre la circonstance neutre et factuelle ainsi que le résultat que vous créez. Vous verrez ainsi comment vos pensées déterminent vos actions. Alors bien sûr, vous me connaissez maintenant, je vais faire le lien entre ce que ça veut dire d'être son ou sa meilleure alliée dans ces circonstances. Alors en utilisant ce modèle, vous avez déjà le bénéfice immédiat de prendre du recul sur votre situation, évidemment. Mais il y a aussi des bénéfices secondaires. Déjà, vous allez renforcer votre connaissance de vous-même. Vous allez comprendre quels sont vos schémas de pensée et qu'est-ce qui vous fait en fait agir d'une certaine manière. Et ça, c'est ce qui va vous permettre aussi de cultiver votre connexion à vous-même parce que vous allez réfléchir à vos émotions, à vos ressentis. Vous allez vraiment vous connecter à l'intérieur, à ce qui fait que vous agissez comme vous agissez. Et ça, ça va vous entraîner à avoir de la curiosité pour vous-même en vous observant sans vous juger. Parce que justement, on va faire la distinction entre ce qui est neutre, ce qui est de l'ordre du jugement. Et quand je parle de ne pas vous juger, c'est parce que c'est un outil qui est à utiliser pour vous, et pas contre vous. Ce que j'entends par contre vous, c'est que le but de l'outil, ce n'est pas de pointer du doigt là où vous n'êtes pas à la hauteur, où vous êtes nul de penser ou de ressentir ce que vous ressentez. C'est pas du tout un modèle pour vous culpabiliser. Bien au contraire, c'est un outil qui vise à vous comprendre pour que vous puissiez récupérer une marge d'action et de l'autonomie en agissant sur les choses qui dépendent de vous. Vos pensées, vos émotions, vos actions. Ça va concentrer votre énergie là-dessus et pas sur les circonstances, parce que ces circonstances, vous ne pouvez pas les changer. Alors il est possible que vous découvriez des pensées qui ne vous plaisent pas, dont vous n'êtes pas fier, des pensées à votre sujet qui vous déçoivent, que vous aimeriez ne pas avoir. Si vos pensées ne vous plaisent pas, c'est le moment aussi de faire preuve de non-jugement envers vous-même et de vous parler gentiment. Je vais reprendre l'exemple du départ où je vous parlais de mon anxiété dans certains cas de figure. Je pourrais très bien me dire « Ben oui, Marie, qu'est-ce que tu croyais ? T'as toujours tendance à sous-estimer les choses et tu ne travailles pas assez vite. Alors évidemment que là, en 3 jours, tu vas pas avoir le temps de faire tout ce que tu as à faire. » Ça, ce serait la version jugement. La version meilleure alliée, ce serait « Ok, Marie, bon, je vois que tu penses que tu n'auras pas le temps de tout faire. Bah évidemment, c'est pas facile pour toi parce que tu aimes que les choses soient faites et bien faites. Alors tu sais quoi ? On va voir ensemble comment on peut te faciliter les choses. » Et ça, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus constructif, beaucoup plus conciliant et aussi beaucoup plus agréable. Donc c'est aussi à ça que ça vous entraîne de pratiquer le modèle. D'avoir cette curiosité bienveillante envers vous-même, à vous tenir par la main en fait, pour avancer vers vos objectifs. Moi aujourd'hui, je suis convaincue que cet outil, il m'aide parce que je le vis et que je m'y entraîne. Et on peut changer les résultats que l'on a dans sa vie vraiment en passant à l'action. Et donc, c'est tout un travail progressif de identifier ses pensées et de les faire évoluer. Et c'est aussi ça que je fais dans mes accompagnements de coaching avec les personnes que j'accompagne. On va voir comment se construisent les modes d'action, là où se construisent les blocages, et ce qu'on peut faire pour aborder les choses d'une manière différente, plus porteuse, avec des émotions qui vont être plus génératrices d'enthousiasme, de plaisir et de clarté quand on avance dans la direction dans laquelle on veut avancer. Moi, ce qui me dérangeait au départ avec ce modèle, c'est que je pensais qu'il incitait à développer des pensées positives, à voir uniquement le positif, à se mettre dans le crâne des affirmations positives auxquelles on ne croit pas du tout, un peu à la manière de la méthode Coué. En fait, pour être une personne positive, qui réussit, etc. Et moi, ça ne me parlait pas du tout. Parce que vous avez sûrement déjà compris que ce n'est pas du tout quelque chose que je prône. Pour moi, les émotions désagréables font partie du processus et je ne pense pas qu'on doive les remplacer. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'apprendre à bien se connaître et à tellement bien se comprendre que l'on est capable de mener les projets qui nous tiennent vraiment à cœur et de créer des moments de vie qui nous ressemblent et qui ont du sens pour nous. Et le modèle, il sert à ça. C'est un outil utile à notre service. Et c'est pour ça vraiment que ça me tenait à cœur de vous le partager. Donc, comme je vous le disais, là, c'était vraiment un épisode pour vous expliquer en quoi ça consiste, pour vous donner les premières billes pour le mettre en pratique, et puis on aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes, car c'est un outil très utile et surtout applicable dans une quantité de situations assez phénoménales. Alors au début de l'épisode, je vous disais que le modèle CPAER est au développement personnel ce que la tarte aux pommes est à la pâtisserie, c'est-à-dire un incontournable. Et j'ai envie de corriger un peu ça. En fait, le modèle CPAER, c'est encore plus basique. À la réflexion, c'est même la pâte à tarte. C'est une fondation. Parce que votre manière de penser est à la base de vos actions. Et c'est en ayant un modèle plus utile pour vous, bon pour vous, avec les bons ingrédients, que vous allez pouvoir construire la suite. Ajouter des couches d'action utiles, en obtenir les fruits et donner à votre vie pro et perso toute sa saveur. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et n'hésitez pas à m'écrire un message si vous utilisez cet outil. Vous pouvez par exemple m'envoyer un exemple du modèle que vous avez rédigé. Et puis vous pouvez me dire aussi si ça vous aide à mieux vous comprendre ou en tout cas à faire un pas de côté sur la situation problématique que vous vivez et à déterminer quelles sont les pensées que vous pouvez peut-être faire évoluer. Alors voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Enfin, l'épisode est terminé, voilà, on s'arrête là. Il y a quand même une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis mon site internet en ligne il y a très peu de temps, et donc pour les personnes qui m'ont demandé, vous pouvez découvrir ici mon approche du coaching pour que vous puissiez aussi en savoir un peu plus sur ce que c'est, puisque je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément ce qu'est le coaching ou n'ont jamais eu l'occasion de le pratiquer. Donc j'ai mis une section pour vous en dire un peu plus sur ce que c'est et comment je le pratique. Et puis, il y a aussi mes offres d'accompagnement, donc différentes offres selon les problématiques que vous rencontrez. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là, je serai ravie d'en discuter avec vous et de vous faire vivre une expérience de coaching si jamais vous en ressentez le besoin. Je m'arrête vraiment ici pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouverai avec plaisir lors d'un prochain épisode. À très bientôt !